edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Direction ce soir le Mali, quel horizon pour un pays en proie à l'instabilité depuis près de 10 ans. Aujourd'hui s'ouvrent à Bamako les assises nationales de la refondation, censées préparer le retour des civils au pouvoir. Difficile à croire vu l'état de déliquescence de l'État, on essaiera de sonder les attentes et les espoirs des Maliens. Le bruit du monde est en Espagne où l'on cueille la fleur de safran, c'est l'une des épices les plus chères du monde. Dans la région de la Mancha, à l'est de Madrid, des passionnés tentent de relancer une production bio et artisanale. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Sébastien Logénie nous parlera de la disparition de l'avocate Sarah Weddington, figure historique du combat pour le droit à l'avortement aux États-Unis. Il nous parlera aussi d'un jeune homme manifestement dérangé, arrêté le jour de Noël au château de Windsor. Il voulait assassiner Elisabeth II avant de filer en Colombie sur l'ancien bagne de l'île de la Gorgone. À 18h50, l'Amérique de Biden. On revient avec Loïc Loury sur l'histoire de l'insulte préféré des anti-Joe Biden, Let's go Brandon. Le président américain y a eu droit le jour de Noël. 18h55, le monde d'après, les pourparlers reprennent à Vienne sur le nucléaire iranien. Franck Mathevon nous promet quelques lueurs d'espoir. Et voilà un programme riche comme un dîner de réveillon. Bonsoir.
Corinne Audouin. Un jour dans le monde.
Notre invité est Emmanuel Tron, chercheur au sein de l'initiative humanitaire de l'Université d'Harvard. Bonsoir.
Bonsoir.
Depuis 2018, Emmanuel Tron, vous avez dirigé plusieurs travaux de recherche au Mali, où vous vous rendez régulièrement, et vous menez des études auprès de la population sur la perception notamment de la présence étrangère par les populations civiles, sur les enjeux humanitaires et de développement, et dernièrement également sur la gouvernance de la sécurité et sur les problématiques de justice. Alors c'est vrai que quand on parle du Mali, on en a beaucoup parlé cette année avec le retrait d'une partie des soldats de l'opération Barkhane, c'est très souvent sous l'angle sécuritaire. On parle de lutte contre le terrorisme. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle la France est intervenue en 2013. Et on se rend compte qu'en 2021, pour ce qui est de la stabilité et de la sécurité dans le pays, c'est pas vraiment réussi. Violence des djihadistes, des groupes armés, des milices d'autodéfense, des milliers de morts, des centaines de milliers de déplacés. Et il faut rappeler enfin que le Mali a connu 2 putschs militaires en moins d'un an, le dernier en mai 2021, et que depuis, la junte militaire est au pouvoir. Alors je le rappelais, à Bamako, on ouvre aujourd'hui la phase finale des assises nationales de la refondation. Ce sont des concertation censée jeter les bases d'un retour des civils au pouvoir. On parlait même d'élections présidentielles et législatives l'an prochain, en 2022. Alors Emmanuel Tron, vous qui connaissez très bien le Mali, est-ce que le pays est en état d'organiser ces élections ?
Malheureusement, non. Les conditions pour permettre un processus électoral qui soit transparent, légitime, fonctionnel et inclusif ne sont pas réunies aujourd'hui. D'abord, pour la question sécuritaire que vous avez mentionnée, je dirais même que l'insécurité grandit au Mali au jour le jour. Elle a touché longtemps les régions du nord, puis les régions du centre, et aujourd'hui, elle est même présente dans les régions de l'ouest, dans la région de Kaï, dans le sud aussi, dans la région de Sikasso et la zone de Koutiala. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de fichier électoral à jour. Il y a des zones et des cartographies qui sont en zone rouge où les populations, si elles devaient voter, elles ne seraient pas en mesure de le faire pour des raisons sécuritaires. Et vous le mentionnez, plus de 420 000 déplacés, plus de 150 000 réfugiés. Et aujourd'hui, il n'y a aucune proposition par rapport à un vote électoral. J'ajoute en plus qu'au niveau politique, les tensions sont assez élevées entre l'équipe qui est au pouvoir aujourd'hui depuis l'année dernière et puis les partis politiques traditionnels. Donc rien n'est prêt aujourd'hui pour mener à bien des élections sereines dans les prochaines semaines et les prochains mois.
Et pourtant, il y a une pression sur le Mali pour que cette transition ait lieu. On l'a dit, actuellement, c'est une junte militaire qui est au pouvoir. Pression des États africains, la CDAO, pression internationale. Pourquoi ? Quel est leur agenda ? Pour parler un peu avec un terme francophone, qu'est-ce qu'ils ont derrière, pourquoi on veut que le Mali avance et sorte de cette période de transition ?
Traditionnellement, les acteurs de la région, la CDAO, l'Union africaine, mais aussi les acteurs internationaux autour de l'Union européenne et des pays comme la France, souhaite conditionner l'aide internationale, les appuis au développement, les appuis à la gouvernance, à travers des processus électoraux qui élisent des présidents légitimes et pour financer des projets. Donc, bien évidemment, ce qui s'est passé avec le renversement du président Ibeka les pousse à porter l'importance de mener des élections rapidement. Mais bien évidemment, l'agenda que peut se fixer la communauté internationale n'est pas forcément celui de la réalité malienne et de la réalité des autorités qui sont en place aujourd'hui. Et
les autorités en place aujourd'hui, justement, quel est leur intérêt? On parle de manœuvre dilatoire, ils voudraient garder le pouvoir. Il y a aussi le rôle du fameux groupe Wagner, on va en parler peut-être un moment, de ces miliciens russes qui seraient en train un petit peu de prendre la place de l'armée française au Mali. Que veut la junte? Est-ce qu'elle veut garder absolument le pouvoir? C'est plus compliqué que ça?
Je crois d'abord qu'ils doivent répondre à un socle de soutien populaire qui les a amenés à travers cette prise de l'État d'engager un certain nombre de réformes, de les mener. Et je dirais que la tâche est immense. Il ne faut pas la minimiser car les dysfonctionnements de l'État malien ne datent pas de 2020 ou de 2021. Ils sont très profonds. Depuis de nombreuses années. Donc, il y a ce soutien populaire qui peut être populiste, qui peut être souverainiste de la jeunesse et des aspirations qui sont légitimes au Mali pour impulser une dynamique. Donc, la junte est devant cet exercice-là. Le font-ils de toute bonne foi? C'est difficile d'être définitif aujourd'hui d'un côté ou de l'autre. Certains diront, comme vous l'évoquiez, qu'ils souhaitent gagner du temps, qu'ils veulent privilégier l'amnestie, qu'ils cherchent à trouver un candidat qui soit à leur main, ou qu'ils veulent aussi casser l'existence des anciens partis politiques qui étaient hautement corrompus. Mais ce qui est sûr, c'est que les choses prennent du temps. Cette prorogation de la transition qui est demandée par les autorités en place n'est pas une surprise. Et je crois qu'il faut qu'ils soient jugés par, ils seront jugés par les Maliens d'abord dans le cadre de ce qu'ils vont mener en termes de réformes constitutionnelles et institutionnelles. Et il faut leur laisser cette légitimité, cette opportunité de le faire.
En tout cas, c'est clair qu'il n'y aura pas d'élection au début d'année prochaine. Ça paraît absolument impossible.
Si c'est le cas, comme je le disais au début, elles ne seront pas inclusives et fonctionnelles et donc ça amènera sûrement d'autres tensions. Donc est-ce qu'il faut souhaiter accélérer et avoir cet agenda électoral très rapide? Personnellement, j'en suis pas convaincu et je suis pas convaincu que ce soit ça qui permettra au Mali de sortir par le haut de cette crise qu'il traverse aujourd'hui.
Je le disais, Emmanuel Tronc, vous avez mené de nombreuses études au Mali sur le terrain, notamment, c'est ça que je trouve très intéressant dans votre travail, auprès de la population civile, auprès des Maliens, de ceux qui travaillent, qui vivent au Mali. Je le disais, quand on parle du Mali, on parle de l'opération Barkhane, on parle géopolitique, on parle stratégie mondiale, mais les Maliens, dans tout ça, cette société civile que vous étudiez depuis des années, qu'est-ce qu'elle attend de cette transition? Qu'est-ce qu'elle espère et est-ce qu'elle espère encore quelque chose?
Je crois que les Maliens ont beaucoup d'espérance, c'est ce qui les fait tenir debout. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils soient naïfs par rapport aux réalités de leur pays et de la manière dont les choses se passent. Je crois qu'il y a une profonde inquiétude et un sentiment d'abandon, d'abord par rapport à la présence de l'État depuis des années, des décennies dans certaines régions. Et puis aussi une volonté d'avoir une justice sociale, du droit, un fonctionnement des services qui n'est pas là et qui ne fait que se dégrader. Mais ce qu'ils attendent avant tout, c'est de sentir, à mon avis, un pays souverain. Et vous mentionnez cette histoire de Wagner. Ce que je veux dire, c'est que si on considère que les autorités maliennes sont souveraines, et c'est quand même le discours international qui est tenu par l'ensemble des dirigeants politiques, ils ont le droit de construire des partenariats avec les acteurs de leur choix et la Russie est un partenaire présent.
Donc on
ne peut pas dire que la présence internationale en charge des enjeux de sécurité soit couronnée de succès jusqu'à présent, que ce soit la MINUSMA dans le cadre de ses missions de stabilisation, l'opération Barkhane ou l'Union européenne et les différents services qui soutiennent les services de sécurité. Comme je le rappelais, le pays n'a fait que s'enfoncer dans l'insécurité depuis 8 ans, avec des phénomènes de violence contre les civils et les militaires qui sont extrêmement graves. Et donc, il faut respecter aussi cette souveraineté malienne.
Même si il s'allie avec des gens qu'on trouve personnellement pas très fréquentables. Je voulais juste resituer un petit peu cette question du groupe Wagner. Wagner, c'est une société militaire privée russe. Elle est présente déjà en Libye, en Centrafrique. Elle est accusée d'exactions. On parle de mercenaires qui seraient soutenus par le pouvoir russe. Et très récemment, la semaine dernière, 15 pays occidentaux, dont la France, ont vraiment condamné fermement le déploiement de ces mercenaires sur le territoire malien. rien. Alors le Mali dément en disant pas du tout, et on a bien le droit d'être engagé dans un partenariat avec la Russie. C'est ça, vous dénoncez, vous dites finalement, le Mali aussi peut faire ses alliances et ses choix comme un pays indépendant qu'il est depuis maintenant les années 60. On n'est plus à l'époque coloniale, quoi.
Je crois que les interventions internationales, quelles qu'elles soient dans la durée, limitent la souveraineté des États par leur présence, leurs actions, leurs discours, leurs priorités. Le Mali est un pays jeune qui n'a jamais été présent dans l'intégralité de son territoire au niveau sécuritaire et qui a souvent été arbitré au niveau politique par des soutiens internationaux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut confronter les autorités en place à leurs responsabilités. Et ce seront les Maliens qui jugeront au final, parce que je ne crois pas qu'ils pourront durer éternellement si ils font des choix qui mènent le Mali encore plus vers la difficulté. Donc il faut à un moment aussi être capable de respecter ça et bien évidemment suivre. Si au niveau international il y a un certain nombre de lignes rouges, c'est à nous de faire nos choix, mais on n'a pas à juger un pays souverain dans le cadre de ses partenariats stratégiques.
Je le disais, vous étudiez notamment comment la population malienne reçoit ces interventions, cette présence internationale. Vous dites aussi dans vos travaux que finalement le Mali, il y a eu un véritable déversement d'aide et de présence internationale, presque un sentiment de gâchis de voir l'état de déliquescence, peut-être le mot est trop fort, mais dans lequel est le pays aujourd'hui. Et comment les Maliens ressentent cette présence internationale? Finalement, il n'y a pas du tout de gratitude, au contraire, par rapport à cette présence, que ce soit de la France ou de l'ONU ou d'autres pays occidentaux?
Je ne crois pas. Je crois que les Maliens sont conciliants et reconnaissent la présence étrangère comme une valeur ajoutée. Maintenant, la présence étrangère est très hétérogène. Elle couvre différents domaines, mais ce qui prédomine aujourd'hui, c'est la question centrale de la sécurité du pays, une restauration, si vous voulez, d'un fonctionnement régalien de l'État. Or, ce n'est pas le cas depuis des années et des années. Les choses n'ont fait qu'empirer. Et je crois que les gens sont surtout usés de voir que les discours sont polarisés, si vous voulez, au niveau politiquement. On était soit pour ou contre le président Ibeka, on est soit pour ou contre la junte aujourd'hui. Il y a besoin d'inclusivité dans ce pays, il y a besoin de dialogue entre les Maliens sans ingérence, quels qu'ils soient, quel que soit leur groupe, qu'ils soient des groupes armés, des milices, des uns et des autres. Je crois qu'ils ont besoin de se parler les yeux dans les yeux. Et malheureusement, il y a beaucoup d'interférences et d'ingérences internationales qui nuisent au débat malien et à la reconstruction d'un dialogue malien.
On va parler dans un instant de cette sortie, de cette piste dont vous parliez, de l'inclusivité, mais déjà, peut-être un point un peu basique, mais c'est quoi ce pays, le Mali? Quand on le regarde, il ressemble à un sablier, il y a des frontières qui sont les frontières coloniales des pays d'Afrique de l'Ouest, hein, qui sont complètement, on a envie de dire aberrantes, en tout cas qui ne correspondent pas aux populations. Donc on a la partie sud et puis Bamako, et puis cette espèce de triangle du nord. Est-ce qu'il y a une unité déjà dans le pays? Est-ce que la situation est la même? On parle de situation sanitaire, de situation économique et sociale dans tout le pays.
Bien évidemment, la situation n'est pas la même si vous vivez à Bamako ou si vous vivez dans un certain nombre de régions dans le centre, dans le nord ou le sud du pays. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les Maliens, dans leur ensemble, en tout cas ceux qu'on a pu rencontrer, ne rejettent pas la notion d'État malien. Bien au contraire, ne cherchent pas une fracturation du pays. Maintenant, quand l'État
ils
malien
sont en demande absent, d'État. Vous dites qu'ils sont en demande d'État, au contraire.
Oui, ils sont en demande. Les populations civiles et la société civile cherchent à avoir un État fonctionnel qui respecte le droit, qui respecte la justice, qui permet aux populations d'évoluer, de se déplacer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est en place au Mali. Ce n'est pas la réalité du Mali. Donc, et c'est vrai que, comme vous le disiez, le Mali est un pays vaste qui est entouré de nombreuses frontières et pays qui eux-mêmes vivent des situations assez complexes au niveau de la sécurité et de la gestion politique.
Vous le disiez vous-même, vous allez assez souvent au Mali, il y a des régions où vous ne pouvez plus vous rendre. Donc non seulement ça ne s'est pas amélioré avec l'intervention militaire de Barkhane, dont on peut éventuellement dire un mot, mais la situation s'aggrave en fait d'année en année.
Pour voyager au Mali, pour une personne étrangère, bien évidemment, depuis 2012, on a vu que les zones d'opportunité se rétrécissaient, passaient de... de régions à certaines villes, à certaines parties de la ville autour de l'aéroport, et puis de moins en moins, donc, et même de mois en mois. Je dirais qu'il y a quelques mois, j'ai pu me rendre avec des équipes de chercheurs maliens dans la région de Sikasso, de Koutiala. Je suis pas certain qu'aujourd'hui ce soit encore possible avec les derniers événements qui soient arrivés. Donc oui, c'est difficile de se déplacer aujourd'hui au Mali.
Et c'est difficile évidemment principalement pour les Maliens. On va venir à ce que vous me disiez, cette l'inclusivité. Vous dites la solution au Mali, elle va passer par l'inclusivité. Ça veut dire notamment discuter avec les Maliens et intégrer dans les discussions les groupes armés, notamment qui sont dans le nord du pays. Expliquez-nous ça. Il faut arriver à parler avec tout le monde. Comment est-ce qu'on peut en sortir?
Oui, parce que je crois qu'une des conditions de sortie de crise sera un dialogue inclusif, d'abord qui passe avec les acteurs de la société civile et les acteurs politiques de Bamako, à travers un leadership. Hein, je veux dire, on a un président qui est jeune, qui a peu d'expérience politique, il faut le confronter à ce leadership. Est-il capable justement de créer les conditions de réforme et d'inclusivité dans son pays et de trouver un accord d'action prioritaire à mener pour décanter une situation de tension, de riposte, hein. Il y a beaucoup d'activités armées qui sont aussi contrôlées à partir de Bamako. Donc il y a des leviers. Il faut un projet politique qui soit inclusif au Mali. Je crois qu'il y a trop de personnes et de populations qui se sentent exclues de la réalité politique, électorale et économique du pays. Donc ça, ce serait le premier point. Et il faut effectivement parler avec l'ensemble des groupes.
Parce qu'on parle toujours des djihadistes, mais il n'y a pas que les djihadistes. Il y a évidemment beaucoup d'autres groupes armés, des milices d'autodéfense, des milices pro-gouvernementales. C'est pas simple. C'est ce que je voulais vous entendre dire. C'est pas simple. C'est pas juste les djihadistes, le terrorisme. Voilà, c'est pas si simple.
Non, et vous parliez tout à l'heure de l'opération Barkhane. Je dirais que l'opération Barkhane a peu d'impact aujourd'hui sur les réalités de sécurité au Mali et n'est pas l'avenir du Mali, que ce soit politique et sécuritaire. Donc ce dialogue avec les groupes armés est essentiel. C'est un choix politique. Il y a sûrement des choses, bien évidemment, à mener en termes de réflexion. Quel impact? Quelles sont les limites? Quel est le prix à cela? Mais les populations civiles dans les régions où l'État n'est pas présent et les autorités de sécurité ne sont pas fonctionnelles se tournent malheureusement vers des acteurs alternatifs qui leur garantissent au moins de continuer à vivre et de continuer à exercer leur vie, leur métier. Donc sans inclusivité, il n'y aura pas vraiment de réforme, et sans dialogue, ce sera très difficile d'enclencher une dynamique de paix et de processus de paix.
Merci Emmanuel Tron. Je rappelle, vous êtes chercheur au sein de l'initiative humanitaire de l'Université d'Harvard. Merci beaucoup.
Le 18-20, Corinne Audouin sur France Inter.
Et la suite ce soir, c'est dans la Mancha, à l'est de Madrid, sur les terres de Don Quichotte. Des irréductibles tentent de relancer la production locale de safran, l'épice la plus chère du monde. Se cueille délicatement et principalement à la main. Et les épices qui vont agrémenter le menu jusqu'à 19h sont avec moi, sous les radars, Sébastien Legénie.
Nous irons en Colombie visiter une terrible colonie pénitentiaire fermée depuis plus de 40 ans et qui revient dans l'actualité à l'occasion des prochaines présidentielles.
L'Amérique de Biden avec Loïc Loury.
Et bonsoir Corinne, le président américain Joe Biden insulté le 24 décembre par un anonyme sur une ligne téléphonique dédiée au Père Noël.
C'est pas sympa. Et le monde d'après, bonsoir Franck Madvon.
Bonsoir Corinne. Les négociations sur le nucléaire iranien reprennent aujourd'hui à Vienne. Et cette fois, un accord n'est peut-être pas si loin.
Mais tout de suite, ils viennent de Leeds en Angleterre. Ils s'appellent Alt-G. On écoute leur morceau You and Me sur France Inter.
Smiles bend all over, can't control how
Le bruit du monde ce soir est en cuisine. On parle du safran. Vous en avez peut-être dégusté à Noël dans la sauce des coquilles Saint-Jacques, par exemple. Alors on l'utilise avec modération puisqu'elle coûte entre 10 et 15 euros le gramme. Cette épice est l'une des plus chères du monde. Heureusement, il n'en faut que quelques filaments pour donner à la paella sa belle couleur jaune dorée. De la paella à l'Espagne, il n'y a qu'un pas. Jusque dans les années 80, l'Espagne était la grande puissance mondiale du safran. Mais face à la concurrence internationale et à la désertification des campagnes, la production s'est effondrée. Quelques irréductibles dans la région de la Mancha se battent pour redonner au safran espagnol son heure de gloire. C'est un reportage de Mathieu de Taillac.
Le rendez-vous est donné à la lagune de Petrola, dans la campagne des alentours d'Albacete, une ville moyenne de la région de la Mancha, à l'est de Madrid. En milieu de matinée, pas trop tôt, car il faut quasiment 3 heures de voiture depuis la capitale, mais pas trop tard non plus pour ne pas rater la récolte, la fleur de safran se cueillant avant son éclosion. On chausse les bottes, on aperçoit quelques taches roses sur le marron du champ. On suit le guide, le gérant de Coae, qui regroupe les principaux négociants du safran espagnol associés pour financer la recherche et l'innovation dans le secteur. Rodolfo Encarnación.
La fleur de safran, la voilà. Et pour la cueillette, on prend simplement la tige à la base, on tire vers le bas et vers le haut, et on a la fleur de safran. C'est comme ça qu'on récolte, de manière manuelle et complètement artisanale.
La technique est simple et répétitive, reproduite depuis des siècles. Le crocus, comme on appelle en botanique le safran, vient du Moyen-Orient. Il était introduit en Espagne par les Arabes qui l'utilisaient pour décorer leurs jardins. Les Espagnols les ont imités, mais pour ses vertus culinaires, aujourd'hui en Espagne, ce sont très majoritairement des travailleurs immigrés qui reproduisent ces gestes. Ce salarié roumain, par exemple, qui a souhaité rester anonyme.
Vous commencez à quelle heure là, le matin?
À 8h30. Et on finit 1h, on peut finir de 2h, on part.
C'est fatigant ou c'est pareil que les autres métiers agricoles?
Mais non, c'est pas fatigant. La promesse, c'est le genre que tu fais tous les jours cette chose. Mais c'est pas fatigant, non, c'est pas fatigant, c'est très bien ici. Parce que l'année passée, la même chose, ça avait plus de fleurs. Ah ouais, qui pour gagner jusqu'à 100, 120, 130, 150 euros la journée.
Vous êtes payé à l'heure ou au kilo ?
Au kilo, on est bien payé.
Le safran a de quoi être généreux avec ceux qui le travaillent. On le trouve dans les supermarchés espagnols à 12 000 euros le kilo. Mais n'allons pas trop vite, il ne suffit pas de ramasser le crocus. On ne fait pas grand-chose de la fleur, il faut en retirer les stigmates, ces fils qui se trouvent au milieu, la seule partie que l'on mange. L'opération s'appelle émondage et en Espagne, ce sont traditionnellement les femmes des villages qui s'en occupent. Sabina est l'une d'entre elles.
L'émondage se fait comme ça. La fleur vers le haut, tu prends les 3 poils, tu coupes et tu sors les 3 poils. Personne ne passe 8 heures à émonder, c'est un truc de voisine. T'as terminé de faire le ménage, si tu n'as rien à faire, tu y vas, tu t'en occupes un moment, puis une autre arrive, tu t'en vas, une autre prend le relais et ainsi de suite. C'est très relaxant.
Une fois les stigmates prélevés, il faut les faire sécher à la braise mais sans flamme. Ou au four, chaque producteur a sa recette. Les stigmates y perdent beaucoup de leur poids. Il faut 100 kg de fleurs de crocus pour parvenir à 1 kg de ces fils de safran que l'on trouve dans le commerce. Autant de techniques qui étaient complètement banales il y a 30 ans dans cette région d'Espagne et qui sont désormais exceptionnelles. Javier Guerrero est le gérant de Coae, l'un des grands négociants de safran. En croisant ses explications avec celles de Rodolfo Encarnación, on se fait une idée de l'effondrement du safran espagnol.
Dans les années 1970-80, l'Espagne était le leader mondial. On a commencé à acheter en Iran, la demande a augmenté, les Iraniens ont planté, et maintenant ils ont une quantité de safran hallucinante.
L'Espagne essaie de retrouver les niveaux de production d'il y a 30 ans qui étaient énormes. On était au-dessus des 20 000 kilos annuels. Aujourd'hui, on est autour de 500 kilos. Il y a eu un exode rural en direction de la ville, surtout les jeunes. Les personnes âgées ont constaté qu'il n'y avait plus d'enfants, de petits-enfants ou de neveux pour s'occuper de la récolte.
Et comment faire face à la concurrence d'une main-d'œuvre abondante et moins coûteuse ? D'abord, en montant en gamme, 90% du safran espagnol est produit en appellation d'origine contrôlée, la Mancha, une part croissante et bio. Et puis, en innovant, les négociants sont particulièrement fiers d'une machine qui sert à faire la récolte, enfin quand elle fonctionne. Rodolfo Encarnacion.
Notre machine, elle travaille pareil que les cueilleurs. On la met dans le champ, elle prend la fleur. Simplement, elle est faite pour travailler dans des conditions déterminées, une certaine hauteur de fleur, un terrain suffisamment sec. Si les conditions sont réunies, on met la machine. On fait en moyenne entre 15 et 20% de la récolte totale à la machine.
La marge de progression existe. Les ouvriers agricoles ne devraient pas manquer de travail dans l'immédiat, dans les champs de safran de la Mancha. En attendant, sur la terre de Don Quichotte, le combat des passionnés du safran ne manque pas le panache.
Voilà la cueillette du safran en Espagne. Merci à Mathieu de Taillac. Le bruit du monde, la suite avec l'actualité internationale passée sous les radars et dénichée par Sébastien Logeni. Ah, c'est beau. On est ici à quelques kilomètres de Londres, au château de Windsor. Visité ce week-end par un étrange intrus, Sébastien.
Oui, c'était ce samedi, Corinne, le 25 décembre, le jour de Noël. À 8h30 du matin, les agents de sécurité de la résidence principale de la reine d'Angleterre découvrent stupéfaits sur leurs écrans de vidéosurveillance, la silhouette d'un homme qui a réussi à s'introduire sur le territoire royal grâce à une échelle de cordes. Et il ne vient pas les mains vides, l'intrus est armé d'une arbalète. À ce moment-là, la reine prend son petit déjeuner avec ses deux fils. Oups. L'assaillant est rapidement arrêté, heureusement, et dès le lendemain interné en hôpital psychiatrique. Il faut dire que son projet tiendrait plus du délire que de la tentative de meurtre organisée. Ce qu'on entend là, cette voix trafiquée, c'est celle du suspect, un jeune homme de 19 ans d'origine indienne dans une vidéo publiée juste avant de se rendre à Windsor et dans laquelle il apparaît en veste à capuche noire, un masque blanc sur le visage, une arbalète à la main. « Je suis désolé pour ce que j'ai fait et ce que je vais faire », dit-il, « je vais tenter d'assassiner la reine Elisabeth ». Rien que ça. Le jeune homme se présente comme un indien de religion sikh et dans une référence à Star Wars, il dit appartenir à l'ordre des Sith, ses ennemis des Jedi dans la saga de George Lucas. Il explique vouloir venger son peuple après un massacre en Inde de centaines de manifestants. C'était en 1919 par les troupes britanniques. Voilà, jamais la sécurité de la reine n'aura été mise en danger ce week-end, mais les protocoles de sécurité vont être revus. Les intrusions à Windsor, il faut le savoir, ou à Buckingham Palace ne sont pas rares. La plus célèbre d'entre elles, c'était en 1982, quand un chômeur anglais était parvenu jusqu'à la chambre de la reine. Il finira condamné pour avoir volé une bouteille de vin blanc.
C'était raconté dans The Crown, d'ailleurs.
Exactement.
Vachement bien. On part pour les États-Unis avec la mort d'une figure de la lutte pour le droit à l'avortement.
Elle s'appelle Sarah Weddington. Elle a disparu hier à l'âge de 76 ans. C'est l'avocate américaine qui a plaidé avec succès l'affaire historique Roe versus Wade devant la Cour suprême. Cette pierre angulaire du droit à l'avortement américain. À l'époque, en 1973, cette jeune avocate vient à peine de sortir de l'université quand elle choisit de défendre le cas d'une Texane, Jane Roe, qui veut avorter contre l'avis du procureur du comté de Dallas, Henry Wade. Le Texas qui interdit alors l'avortement. L'affaire remonte jusqu'à la plus haute instance judiciaire américaine et la victoire de Sarah Weddington va permettre d'élaborer une jurisprudence sur laquelle repose encore 50 ans après tout le droit à l'avortement aux États-Unis. On entend là Sarah Weddington en 1977, 5 ans après sa victoire historique, prendre la parole pour défendre cette fois la contraception et pas seulement, elle se prononce en faveur de l'éducation sexuelle mais aussi de l'accès au planning familial. Une militante donc des droits des femmes qui ne cachait pas son inquiétude également ces dernières années devant les coups de boutoir des anti-IVG et surtout du possible retour en arrière de la Cour suprême américaine désormais majoritairement composée composée de juges ultra-conservateurs, la Cour qui doit rendre un arrêt décisif. Ce sera en juin prochain.
Et on termine en Colombie avec une prison légendaire qui refait surface.
Le bagne de la Gorgone en Colombie, en effet moins célèbre mais tout aussi terrifiant qu'Alcatraz, Robben Island ou l'île du Diable en Guyane. Alors si l'on reparle de cette ancienne colonie pénitentiaire, c'est à cause des présidentielles colombiennes qui auront lieu l'an prochain. En effet, l'un des candidats promet d'y envoyer les politiciens véreux et corrompus. Alors heureusement pour eux, le bagne de la Gorgone est aujourd'hui fermé depuis 84, rendu à la jungle. Mais ce fut pendant 25 ans l'une des pires prisons de haute sécurité au monde, accueillant criminels colombiens et prisonniers politiques, surnommée la Gorgone en référence à la méduse mortelle de la mythologie grecque. Les serpents, en effet, y sont légion.
Era muy difícil.
Il était très difficile, dit cet ancien directeur de la prison de la Gorgone, pour les détenus de s'échapper de l'île. L'île était pleine de reptiles venimeux, de nombreuses tarentules toxiques et les plages infestées également de grands requins blancs. Voilà, très sympa la Gorgone.
C'est Koh-Lanta.
Voilà, c'est ça. Mais il n'y a bien sûr aucune chance que ce bagne ne renaisse de ses cendres. Les écologistes, en revanche, en feraient bien un parc national. On hésite encore à prendre son billet.
Merci voilà. Sébastien Legénie, sous les radars. À demain pour d'autres destinations plus ou moins exotiques. Et ne partez pas tout de suite, Tikenja Fakoli et Ken Booth nous posent une question, Is it because I'm black, dans la playlist de France Inter.
My people, dark brown shade of my skin, only adds color to my tears. That splash against my hollow bones, that rocks my soul. Looking back over my past dreams that I once knew, wondering why my dreams never came true. Oh, somebody tell me, what can I do? Ah, yeah. Something is holding me back.
Holding me back.
Is it because I'm black?
Yeah. In this world of no pity, I was raised in the ghetto of the city.
My machine works so hard to earn every penny. Something is holding me back.
Holding me back.
Is it because I'm black?
Is it because I'm black? Yeah. Something is holding me back.
Is it because I'm black?
Yeah.
Is it because I'm black? Quand la star ivoirienne Tikenja Fakoli et la légende jamaïcaine Ken Booth unissent leurs voix, c'est dans la playlist de France Inter.
France Inter, un jour dans le monde.
I pledge to be a president who seeks not to divide.
L'Amérique de Joe Biden, toujours aussi divisée, alors que le président américain approche de sa seconde année à la Maison-Blanche. Et si les fêtes ont permis d'oublier un petit peu la politique, un événement, l'Oeil Glory, est venu ternir le réveillon présidentiel.
Oui, le 24 décembre, Joe Biden et son épouse Jill prennent quelques appels sur une ligne téléphonique dédiée au suivi de la tournée du Père Noël. C'est une tradition ici aux États-Unis et c'est très sérieux puisque c'est le NORAD, le commandement de la défense aérospatiale américaine qui s'en charge. Et cela depuis 1955. Le président est donc au téléphone avec de petits Américains, puis avec un père de famille. La séquence a été filmée. Le ton semble très cordial, Corinne, jusqu'à la fin du coup de fil.
I hope you have a wonderful Christmas.
Well, yeah, I hope you guys have a wonderful Christmas as well. Let's go, Brandon.
Let's go, Brandon. I agree.
Voilà, j'espère que vous passerez un merveilleux Noël, dit Joe Biden à ce monsieur. Celui-ci lui répond la même chose avant d'ajouter « Let's go Brandon », traduisez « Allez Brandon », c'est une manière d'encourager quelqu'un. Les mots a priori sont plutôt anodins. Je suis bien d'accord, conclut d'ailleurs Joe Biden. « Let's go Brandon ». Jill Biden, son épouse en revanche, semble alors esquisser un drôle de sourire un petit peu crispé.
Et pour cause, son époux vient de se faire insulter.
Et oui, absolument. Et pour comprendre, eh bien, je vous propose de revenir à l'origine de cette histoire. Elle commence le 2 octobre dernier sur le circuit de Talladega. C'est dans l'Alabama. Un certain Brandon Brown, 28 ans, est extatique. Il vient tout juste de remporter sa première course de NASCAR, cette discipline automobile très populaire ici aux États-Unis. Et après sa victoire, une journaliste de la chaîne NBC lui tend son micro.
As you can hear the chants from the crowd. Let's go Brandon. Brandon, you told me you were going to come.
Let's go Brandon. Voilà, dit cette journaliste, ce que la foule serait en train de crier. C'est pourtant faux, Corinne, puisqu'on entend clairement le public chanter fuck Joe Biden. Biden va te faire foutre. Pardon pour ce gros mot, c'est vulgaire, mais pas totalement étonnant dans un état qui avait largement voté l'an dernier pour Donald Trump. Alors la journaliste est-elle dure de la feuille ou juste très embêtée? Eh bien, toujours est-il que les conservateurs américains ont vu dans cette histoire une tentative de masquer la vérité, une illustration d'une prétendue mainmise des libéraux sur les médias. L'expression « Let's go Brandon » depuis est devenue un cri de ralliement autant qu'une insulte. On l'a vu adressée au président ce 24 décembre. Quant à l'intéressé Brandon Brown, il se dit républicain mais n'a aucune envie de s'impliquer en politique. « Je veux simplement, assure-t-il, conduire ma voiture. »
Bon, on le voit, la fin d'année un petit peu morose pour le président américain et celle qui va s'ouvrir ne s'annonce pas non plus sous les meilleurs auspices.
Non, Joe Biden a bien fait voter, Corinne, son plan dédié aux infrastructures, mais c'est à peu près tout. L'autre grand texte de son début de mandat, consacré celui-ci à des dépenses sociales et environnementales, a été torpillé. Le fameux plan Build Back Better. Le président n'a pas progressé sur les droits de vote menacés des minorités. Rien non plus sur les armes à feu, sans compter la débâcle en Afghanistan et bien sûr le Covid qui repart. Bref, il n'est pas au mieux dans les sondages et c'est très inquiétant à moins d'un an des midterms en novembre prochain. Les élections cruciales de mi-mandat, Mitch McConnell, le patron des Républicains au Sénat, se frotte déjà les mains.
Je crois que l'atmosphère, l'environnement politique seront propices à une correction de mi-mandat qui s'annonce considérable. Il y a de grandes chances que nous reprenions la Chambre, mais aussi le Sénat. Joe Biden, qui clamait pendant sa campagne être un modéré, sera bien obligé de l'être pour les deux dernières années de son mandat.
Voilà, façon de dire que Joe Biden ne pourra plus faire grand-chose sans l'appui des Républicains. C'est déjà assez compliqué aujourd'hui avec le Congrès de son côté. Mais sans les deux chambres, il sera condamné à signer des décrets présidentiels. Des décrets que son successeur, s'il n'est pas démocrate, pourra s'empresser de déchirer comme l'avait fait Donald Trump après Barack Obama.
Et merci Loïc Loury. Et tout de suite, le monde d'après avec Franck Matvon.
Corinne Audouin, le 18-20.
Le monde d'après, c'est donc avec vous ce soir, Franck Matvon, bonsoir.
Bonsoir.
Les négociations sur le nucléaire iranien ont repris aujourd'hui à Vienne, en Autriche. Elles visent à sauver l'accord que les États-Unis de Donald Trump avaient quitté en 2018. Alors très peu de progrès accomplis, mais il y a tout de même quelques raisons d'espérer, Franck.
Après la dernière session de pourparlers, mi-décembre, Corinne, un diplomate américain cité par le Washington Post a eu cette formule « Ce round a été meilleur que ce qu'il aurait pu être et pire que ce qu'il aurait dû être ». Il parlait de là de la 7e session de discussion lancée fin novembre, la première depuis qu'un nouveau président iranien, l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi, a été élu en juin. C'est donc le 8e round, faut suivre, qui s'est ouvert ce soir, il y a moins d'une heure, avec toujours le même objectif, ranimer l'accord de 2015 qui limitait le programme nucléaire iranien en échange d'une levée des sanctions contre Téhéran, un accord sous respiration artificielle depuis que Donald Trump a retiré Washington du texte en 2018. On connaît les termes de l'équation, les Iraniens étranglés par les sanctions et la politique de pression maximale des États-Unis ont violé au fil des mois beaucoup de leurs engagements. Leur programme nucléaire a avancé à grands pas, mais ils martèlent que les États-Unis qui ont déchiré l'accord doivent faire le premier geste et lever les sanctions. De son côté, Washington demande à l'Iran de revenir dans les clous avant de faire la moindre concession. À Vienne, les discussions visent à rapprocher ces deux positions très éloignées. L'élection de Raïssi a compliqué la donne. Les ultra-conservateurs aux commandes sont plus exigeants, même s'ils obéissent de toute façon au guide suprême, Ali Khamenei. Et en plus, Téhéran refuse de discuter directement avec les États-Unis. Européens, Russes et Chinois font la navette entre les délégations iraniennes et américaines.
Alors malgré tout, ces discussions ont donc repris et c'est un premier signe encourageant.
En effet, le 17 décembre, quand le nouveau chef des négociateurs iraniens, Ali Bagheri, a souhaité retourner à Téhéran pour des consultations, il n'était pas du tout certain que les discussions reprennent avant la fin de l'année. C'est donc une bonne nouvelle. À Vienne, deux documents sont sur la table. L'un sur les sanctions américaines, l'autre sur les activités nucléaires de l'Iran. Les Iraniens demandent la levée de toutes les sanctions et la garantie que les États-Unis ne pourront pas une nouvelle fois sortir d'un accord. Évidemment, c'est trop. Washington doit maintenir un minimum de pression et Joe Biden ne peut pas lier les mains d'une future administration américaine. Mais la négociation sur la levée des sanctions est ouverte et l'Iran a montré des signes de bonne volonté. Avant-hier, le nouveau chef de l'agence nucléaire iranienne a assuré que son pays n'enrichirait pas l'uranium au-delà de 60%. L'Iran a aussi accepté ce mois-ci que de nouvelles caméras de surveillance soient mises en place sur un site nucléaire. Des caméras endommagées en juin, c'était un point important pour avancer dans les discussions.
Et la capacité de nuisance d'Israël s'est aussi réduite.
Israël, vous le savez, Corinne, a toujours rejeté l'accord de 2015. Pas question de faire le moindre cadeau à l'ennemi juré iranien. Depuis cet été, l'État hébreu a brandi à plusieurs reprises la menace d'une attaque pour empêcher l'Iran de se doter de la bombe. Mais plusieurs experts militaires mettent en doute cette possibilité. L'Iran compte beaucoup de sites nucléaires et l'aviation israélienne a des capacités limitées, notamment en termes de ravitaillement. Israël montre les muscles donc, mais n'a sans doute pas les moyens d'attaquer l'Iran. Les États-Unis, eux, pourraient le faire, mais ne passeront pas à l'acte. Au fond, Américains et Iraniens veulent un accord. Washington y voit un moyen de stabiliser le Moyen-Orient pour se concentrer sur sa principale préoccupation, la Chine et la zone Indo-Pacifique. Et Téhéran a besoin d'échapper aux sanctions, de vendre son pétrole, en clair, de redresser son économie. Cela dit, il faudra sans doute encore du temps pour qu'un accord se dessine. Européens et Américains estiment qu'il y a urgence. Les Iraniens, eux, jouent la montre. Et pendant les discussions, ils continuent à développer leurs activités nucléaires.
Franck Madvon et le monde d'après. Merci beaucoup Franck. On reste ensemble dans un instant. Le journal de Xavier Demagny, puis le téléphone sonne. Mais d'abord un peu de réclame.